Le quart d'heure e-sport, une émission sur l'actualité et l'agenda des tournois e-sport amateurs, semi-professionnels et professionnels, locaux, nationaux ou internationaux. Retrouvez-nous tous les dimanches à 13h sur le 91.1 FM pour Blois et ses environs, et aussi sur studiozef.fr. En attendant, retrouvez le quart d'heure e-sport sur Twitter, sur Instagram et aussi sur Discord. Bonjour à tous et bienvenue dans le quart d'heure e-sport. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la dernière émission de la saison sur Studio Zef. Pour cette émission, je vais parler d'un sujet qui continue à faire débat dans le milieu de e-sport. Je veux bien évidemment parler de e-sport aux Jeux Olympiques. C'est en 2017 que le Comité International Olympique, plus connu sous le nom de CIO, a reconnu l'e-sport comme un sport. Depuis, le CIO a organisé deux événements. Tout d'abord les Olympiques Virtual Series en 2021, qui étaient en format online. Puis deux ans plus tard, les Olympiques Esports Series à Singapour. Sur ces deux événements, les jeux choisis étaient principalement des jeux de simulation sportive, notamment avec du Zwift, qui est du cyclisme virtuel, du Virtual Regatta, qui est de la voile virtuelle, du Just Dance, ou encore du Virtual Taekwondo. Enfin, le CIO a aussi organisé en parallèle des tournois en marge des Jeux Olympiques de Pyeongchang en 2018 en Corée du Sud sur le jeu StarCraft 2, et aussi en marge des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 sur les jeux Rocket League et Street Fighter V. Comme vous le savez peut-être, le CIO a annoncé récemment la création des Jeux Olympiques de l'e-sport qui auront lieu en 2025 en Arabie Saoudite. À ce jour, nous ne connaissons pas ni les jeux choisis, ni le format de ces Jeux Olympiques de l'e-sport. Cependant, l'arrivée des Jeux Olympiques de l'e-sport pose pas mal d'interrogations, notamment sur le droit à la propriété intellectuelle ou encore le choix des jeux. Il existe d'autres raisons qui seront abordées tout au long de cette émission. Dans cette dernière émission de la saison, je serai accompagné de Nicolas Besombe, maître de conférences en sociologie du sport à l'université de Paris-Cité. Avec moi, il y a aussi Tristan Brandilly, président de l'association Restart eSport Club et président de la FFJV, la Fédération Française de Jeux Vidéo. Et enfin, dernier invité de cette émission, Alexandre Dubé, alias Moka, président de l'UAF, l'Union des Associations eSportives Françaises, et président de l'association eSport Métallique. Pour information, cette émission sera découpée en deux parties. Une première partie de l'émission qui est diffusée aujourd'hui. Enfin, une seconde partie de l'émission qui sera diffusée le 28 juillet prochain à 12h30 sur Studio Zef. Tout de suite, la première partie de l'interview. Bonjour Nicolas, bonjour Alexandre, bonjour Tristan. Merci de m'avoir accordé du temps pour cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter aussi la structure ou la fédération e-sport que vous représentez ?
Je vais commencer. Déjà, bonjour et merci pour l'invitation. Donc moi, je m'appelle Nicolas Besdombe, je suis enseignant-chercheur à l'université Paris-Cité. Et parallèlement à ça, je suis également membre du conseil d'administration de l'association France e-sport.
Je me présente à mon tour. Donc, je suis Alexandre Moka-Dubé, président de l'association Métallique, président de l'Union des associations e-sportives de France et membre du conseil d'administration chez France e-sport.
Et ben, moi, c'est Tristan Brandilly, je suis fonctionnaire d'État. Je suis président de l'association Restart eSport Club et de la Fédération française de jeux vidéo, qui est une association.
Et du coup, bah forcément, pendant des années, il y a eu un long débat sur le fait d'intégrer ou pas l'e-sport aux Jeux Olympiques. Et selon vous, est-ce que l'e-sport a sa place au JO ?
Je vais commencer, vu que je vois qu'Alex me tend la main. Alors déjà, peut-être préciser que l'e-sport, il n'est pas aux Jeux Olympiques. Ça a déjà été acté depuis 2018, que l'événement, les Jeux Olympiques et Paralympiques, qui est donc un événement qui est organisé par le Comité International Olympique, en tout cas le CIO, donc ce Comité International Olympique, a fait le choix depuis 2018 de ne pas intégrer l'e-sport dans le programme sportif des Jeux Olympiques. C'est une décision qui est liée à plusieurs raisons. La première, c'est que le mouvement olympique et donc le CIO ne reconnaît pas des activités sportives, mais reconnaît des fédérations. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de fédération reconnue par le mouvement olympique, pas de fédération d'e-sport reconnue par le mouvement olympique. Donc à ce titre-là, l'e-sport ne peut pas intégrer le programme sportif des Jeux olympiques. La deuxième, c'est que lorsque l'on parle d'e-sport, on parle de jeux vidéo dont la propriété intellectuelle appartient à des éditeurs de jeux, ce qui est très différent du mouvement sportif dans lequel les disciplines sont des biens communs. Et donc, de fait, l'option qui a été choisie aujourd'hui par le CIO, c'est plutôt de créer des événements qui sont dédiés, enfin de créer un événement en l'occurrence, qui va être dédié aux jeux vidéo et à l'e-sport, et ce que même le CIO appelle les sports virtuels et à l'e-sport, en marge des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le CIO, c'est un organisateur d'événements, et qu'il organise certes les Jeux Olympiques, il organise les Jeux Paralympiques, mais il organise plein d'autres événements qu'on connaît moins, le grand public les connaît moins, ça peut être les Jeux Olympiques de la jeunesse, ça peut être les World Games, les Urban Games, il y a plein d'autres types de jeux, de grands jeux qui sont organisés par le CIO, et aujourd'hui, il y a une volonté de la part du CIO de créer un événement dédié au sport virtuel et à l'e-sport. Ce rapprochement, il est le fruit d'une longue réflexion qui est beaucoup plus globale de la part du CIO, qui est de pouvoir rajeunir ses audiences, rajeunir sa fanbase. C'est pour ça notamment que depuis maintenant une quinzaine d'années, le CIO a fait le choix de diversifier à la fois les disciplines qui font partie de ces des événements qu'il organise. C'est pour ça que là, typiquement à Paris, on se retrouve avec des disciplines comme le breaking, donc pour le breakdance, avec le BMX, avec le skate, avec le surf depuis Tokyo, avec le basket 3-3 ou l'escalade. Mais c'est aussi avec une volonté de toucher les nouveaux publics sur les médias qu'ils utilisent, à savoir les plateformes numériques, et que depuis maintenant deux Olympiades, le CIO a son Olympic Channel, qui est finalement la plateforme et la chaîne dédiée à la diffusion des événements olympiques. Donc l'intégration de l'e-sport dans le mouvement olympique, elle s'inscrit dans cette volonté de venir toucher une nouvelle audience, plus jeune. Alors maintenant, à savoir la question qu'il y a derrière, est-ce que la stratégie qui a été choisie par le CIO est la bonne pour venir toucher cette audience? Et là, on pourra en rediscuter, j'imagine, mais c'est peut-être là où il y a encore pas mal d'incertitudes.
Alexandre ou Tristan, est-ce qu'il y a des choses à rajouter ou à compléter?
Alors, sur comment le CIO fonctionne, voit le sport, voit le sport, etc. Je pense que Nico est quand même la personne la plus qualifiée pour ça. Et surtout, celle qui aura le plus d'expérience pour expliquer le total. Effectivement, oui, le CIO, c'est un organisateur d'événements. Donc, les Jeux Olympiques qu'on connaît depuis très longtemps, hein, qui ont été revisités par Pierre de Coubertin le début des années 1900. Faut savoir que c'est quelque chose aussi qui vient de beaucoup plus tôt, notamment par les jeux de la Grèce antique. Donc il y a tout un système à côté, toute une vision des choses qui fait que trouver la place de l'e-sport au sein du CIO et des Jeux Olympiques actuellement, c'est compliqué. Comme dit Nicolas, effectivement, il y a la différence entre le sport et l'e-sport, enfin le sport traditionnel et l'e-sport. C'est la présence du support qui est un support qui appartient à quelqu'un, notamment aux éditeurs ou aux créateurs. Le jeu vidéo, c'est la propriété intellectuelle. On n'a pas, sur le football ou sur le rugby par exemple, on n'a pas une propriété intellectuelle du rugby. C'est-à-dire que on ne doit pas payer des droits pour dire tiens, on va jouer au rugby dehors ou quoi que ce soit, ce qui est complètement différent avec l'e-sport. Donc là-dessus, effectivement, ce sera très difficile. Le fait que ça arrive aux Jeux Olympiques, à des événements en marge, c'est un bon début parce que effectivement il faut retrouver de l'audience, il faut toucher des jeunes, hein, comme disait Nico, l'arrivée du breaking là, cette année, et puis il y avait eu aussi tout ce qui était les épreuves de skate, etc., qui existent depuis quelques années maintenant. Il y a des disciplines qui sont nouvelles et qui commencent à voir le jour, des disciplines un peu extrêmes. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis, un jour, peut-être, ou effectivement, lors vrais Jeux Olympiques, peut-être qu'il y aura une compétition d'e-sport en marge qui sera un peu mise en avant. Mais je doute que ça s'appelle vraiment des Jeux Olympiques, que ça soit incorporé à l'événement Jeux Olympiques.
Alors, pour rajouter ma petite partie, je viendrai apporter la coloration Olympic e-sport Series, quand même, qui s'est tenue l'année dernière à Singapour, si je ne dis pas de bêtises. et où, comme le disait Nico, aussi bien Tristan, on a un peu déchanté sur le format, en tout cas pour ma part, moi, de spectateur amateur, avec les jeux qui avaient été choisis ou sélectionnés pour cet opus, et qui effectivement représentaient beaucoup plus l'hybridation sport et sport que réellement ce qu'était à nos yeux gamer l'e-sport. Voilà.
Bah, c'est vrai que j'ai eu la même impression aussi, mais après ce que je me disais de l'autre côté, ça permettait de mettre en avant des scènes compétitives qu'on n'a pas l'habitude de voir. On parle beaucoup de League of Legends ou de Counter-Strike, et l'année dernière c'était du Just Dance, il y avait du Gran Turismo qu'on a moins l'habitude de voir. Pour moi c'était quand même un bon début de ce que pourrait être l'e-sport aux Jeux Olympiques. Effectivement, c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir du League of Legends et du Counter-Strike, mais je m'étais dit, bon, c'est bien d'avoir aussi d'autres jeux.
Après, faut comprendre un peu la volonté du CIO et puis la façon dont il se place. C'est-à-dire que bah, pour eux, ça, enfin, pour le CIO, ça reste quand même un mouvement olympique et sportif. Donc, il est normal d'avoir une adaptation, enfin, sur leurs événements, d'avoir une adaptation du sport version digitale. Sur Just Dance, on peut bouger. Donc, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, c'est plus la simulation de sport. Il y a également le virtual sport, donc on peut bouger, etc. Il y avait du ping-pong, donc quelque chose qui est arrivé il y a assez récemment. Il y avait du sim racing. Le sim racing, c'est très bien. C'est une scène, mine de rien, qui existe depuis très longtemps. C'est une scène niche, certes, elle n'est pas assez mise en avant, mais les compétitions de sim racing, avec le volant, baquet, etc., sont des compétitions qui existent quand même depuis plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Donc voilà, il y a ce côté vraiment de ce rapprochement entre le sport et l'e-sport qui était de l'utilisation de jeux simplement à vos yeux. Donc pour l'instant, on ne parlait pas de League of Legends, on ne parlait pas de Counter-Strike, qui sont nous ce qu'on va appeler plutôt l'e-sport traditionnel, les grands jeux, les grandes compétitions, mais une compétition de football virtuel, une compétition de sim racing, une compétition de Just Dance, etc. Ça fait sens en fait avec la volonté du CIO. Du moins, c'est mon point de vue, peut-être que Nico pourra apporter des clarifications dessus.
Disons que, en fait, pour comprendre le choix des jeux, faut comprendre quelle est la mission du mouvement olympique et plus particulièrement du CIO. Le CIO, sa mission principale, c'est de servir l'intérêt de ses membres. Qui sont les membres du CIO et du mouvement olympique? Ce sont les comités nationaux olympiques, les fédérations internationales de sport et les sponsors olympiques. Donc, la mission principale du CIO, c'est d'être au service de ces membres-là. Donc, les membres du mouvement olympique, eux, ils doivent rayonner, c'est-à-dire ils doivent en fait profiter de ces événements-là pour faire rayonner leur discipline, et quand je dis leur discipline, c'est au pluriel. Donc pour l'athlétisme, ça va être les sauts, les lancers, les courses et ainsi de suite. Pour la natation, ça va être la natation en eau libre, la natation en piscine et ainsi de suite, et le plongeon. Et donc en fait, le CIO, lorsqu'il a organisé notamment les Olympic Esports Series dont on parlait à Singapour, il a sollicité ses membres en leur disant, voilà, nous on vous crée un événement qui vous est dédié, qu'est-ce que vous voulez mettre dedans? Or aujourd'hui, les fédérations internationales sportives, eh bien, à de très rares exceptions près, elles ne voient la compétition de jeux vidéo qu'au prisme des simulations de sport. Elles ont énormément de mal à se détacher finalement de l'activité virtuelle qui va simuler leur propre activité physique. Donc, la fédération de cyclisme, pour elle, ce qui se rapproche le plus de ce qu'elle fait, c'est Zwift avec le vélo virtuel. Pour la fédération de taekwondo, ça va être le virtual taekwondo. Pour la fédération de danse, bah, ça va être finalement Just Dance. Et donc c'est vrai que ce ne sont pas forcément les jeux qui sont les plus populaires, on va dire, au sein d'une communauté e-sportive qui fait la part belle plutôt aux jeux de stratégie en temps réel, aux jeux de combat, aux jeux de tir et ainsi de suite. Donc, en fait, c'est pour ça que l'on s'est retrouvé finalement avec une première édition de ces Olympic Esports Series à Singapour, qui était constituée de donc 10 tournois. Ces 10 tournois, ils étaient organisés et gérés par les fédérations internationales sportives en collaboration avec les éditeurs de jeux avec lesquels elles ont l'habitude de travailler. Et parfois, d'ailleurs, c'est pas forcément des éditeurs de jeux, c'est plutôt des éditeurs d'applications. Hein. Si on prend le cyclisme, Zwift, c'est pas vraiment un jeu vidéo, c'est même plutôt une application qui vient soutenir la pratique du vélo. Donc c'est pour ça que l'on s'est retrouvé finalement avec ce type d'activités qui ont été présentées. Au grand désarroi, ce que j'entends tout à fait d'Alexandre ou d'autres acteurs de l'e-sport qui espéraient peut-être adultes, voire plutôt des jeux majeurs de l'e-sport. Ce que ça soulève comme question, c'est finalement, est-ce que cette stratégie, elle est finalement bien adaptée pour répondre finalement aux problématiques du CIO, qui est de venir finalement toucher un public qui est plus jeune, en tout cas de rajeunir son audience, qui est qui s'inscrit dans un principe d'universalité, c'est-à-dire qui est accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les gens qui peuvent suivre et regarder du vélo virtuel, du Zwift, c'est pas tout à fait la même population que celle qui suit du Smash Bros, qui suit du Counter-Strike ou du League of Legends en termes de caractéristiques sociodémographiques. On est plutôt les gens qui font du Zwift, ou en tout cas qui utilisent Zwift, c'est des gens qui sont plutôt issus de catégories socio-professionnelles plutôt aisées, parce que ça coûte assez cher d'avoir un home trainer. C'est donc des gens qui sont un peu plus âgés, c'est des gens qui sont déjà convaincus par le vélo et déjà convaincus par le sport. Et donc finalement, est-ce que ça correspond réellement à l'ambition du CIO que de venir rajeunir son audience et de venir toucher des gens qui sont éloignés de la marque olympique et du mouvement olympique? Ça reste finalement un vrai sujet. Et puis l'autre point, c'est que ce qui n'a jamais été très clair sur cet événement, c'était est-ce que l'objectif c'était de faire une participation de masse, ça veut dire de faire participer beaucoup de gens, ou est-ce que c'était de faire des audiences de masse? Et donc de fait, aujourd'hui, il me semble que jeux qui simulent des activités sportives ont tendance à être beaucoup pratiqués, mais assez peu regardés. C'est-à-dire que ce que je défends comme idée, c'est qu'il y a une sorte de plafond de verre avec les simulations de sport. C'est-à-dire que aujourd'hui, il n'y a pas de les jeux qui finalement simulent des activités sportives réelles existantes. Aujourd'hui, sont tellement, on va dire. Sont tellement proches de la réalité qu'il n'y a plus vraiment de plus-value à regarder ça par rapport à l'activité réelle existante. C'est-à-dire, quelle est la plus-value à regarder un match de FIFA quand on peut regarder du football? Alors que regarder un match de Rocket League, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir dans la réalité. Et donc, bien qu'il y ait beaucoup de gens qui jouent à FIFA, c'est pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui le regardent. Et donc, pour moi, ça c'est quelque chose qui a toujours pas été très éclairci au niveau du mouvement olympique et particulièrement du CIO, c'est de savoir est-ce qu'ils cherchent plutôt à vers de la participation de masse, c'est-à-dire à chercher à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui participent à ces tournois qu'ils vont organiser, ou est-ce qu'ils veulent faire des audiences de masse? Et s'ils veulent faire des audiences de masse, c'est-à-dire chercher à faire de fortes audiences, je ne suis pas sûr que positionner sur les simulations de sport constitue la meilleure stratégie pour répondre à cette problématique-là. Donc, voilà le bilan qu'on peut tirer finalement de cette première édition qui s'est tenue en présentiel à Singapour, puisqu'il y avait déjà eu une version virtuelle qui s'était tenue pendant le Covid, hein, qui s'appelait les Olympic Virtual Series. Et là encore, ça avait fait assez peu d'audience, beaucoup de participants, mais assez peu d'audience. À Singapour, là aussi, un peu plus d'audience, mais surtout beaucoup de participants. Mais si l'objectif, c'est de toucher des fortes audiences, à mon avis, la mission n'est pas tout à fait remplie pour le moment, mais c'est une première étape qui a permis aux mouvements sportifs et notamment aux fédérations sportives internationales de finalement proposer de nouvelles offres et de nouvelles disciplines pour les pratiquants et les pratiquantes.
C'était la première partie de l'interview. Maintenant, place à la première pause musicale. Le morceau « Say You Will Be » de Jérôme Priester. We'll be right back. De retour sur Studio Zef, nous sommes toujours dans le quart d'heure e-sport dédié à l'e-sport aux Jeux Olympiques. Tout à l'heure, avec Nicolas, Tristan et Alexandre, on a parlé des Olympics e-sport series qui avaient lieu en 2023 à Singapour. Je vais poursuivre cette émission avec la seconde partie de l'interview sur l'e-sport aux Jeux Olympiques.
Ce que je me disais, c'est qu'en fait, l'avantage avec que ce soit des jeux de simulation sportive, c'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre des nouvelles règles supplémentaires en soi. Alors que du League of Legends, par exemple, il y a quand même du vocabulaire assez spécifique au jeu. Alors que les gens, en fait, ils peuvent comprendre, par exemple, du Gran Turismo ou du FIFA, c'est beaucoup plus simple à comprendre que du League of Legends.
Alors avant de répondre à ta question, moi je voudrais juste rajouter une petite touche colorée à ce qu'a dit Nico. Avoir des jeux vidéo d'e-sport au sein d'une compétition olympique, c'est quand même avoir une reconnaissance de l'évolution, en tout cas des mentalités dans la tête des fédérations, des organisations concernant la culture contemporaine en fait qui évolue, comme le fait de pouvoir apporter le breakdance ou n'importe quoi. Donc c'est déjà quelque chose qui est positif en soi. Maintenant, c'est une stratégie market. Comme peut-être, sûrement même, voilà, je ne mets pas de nuance en tout cas dans le propos, et je pense et suppose que, comme l'a dit Nico, si l'intérêt est d'aller chercher des audiences, il faudrait très certainement repenser en tout cas une forme d'événement parallèle qui serait axé uniquement sur la partie compétitive mainstream de jeux vidéo et d'e-sport, et qui reflèterait complètement en tout cas les attentes des publics, mais encore une fois, si c'était... la volonté du CIO. Pour revenir sur ta question d'apprentissage, comme l'a dit Nico, et il a très bien utilisé Rocket League, c'est un jeu haut et en couleur, spectaculaire. On peut ne pas comprendre ni connaître les règles ou le lexique et apprécier ce qu'on voit. Je pense que c'est la même chose pour tous les jeux qui passent sur des écrans géants où il y a un certain engouement compétitif derrière avec ou des fanboys ou des nations ou des équipes derrière et qui vont plus aller dans le sens d'attirer du monde pour soutenir son équipe, son pays, sa couleur, plus que de regarder un jeu à proprement parler. Bien évidemment qu'on a des affinités personnelles avec tel ou tel type de pratique. Si on fait du foot, on fera pas du tennis ou vice versa. On peut très bien faire les deux, hein. C'est pas ce que je sous-entends, mais c'est pour dire que il y a moins de problématiques, en tout cas, à regarder des jeux qu'à les comprendre.
Disons que pour rebondir par rapport à ça, c'est, je pense pas, et au risque de pas être aligné avec ce que beaucoup de gens pensent, mais moi je crois pas que le jeu vidéo ou l'e-sport soit plus difficile à appréhender que le sport, quoi. Et c'est quelqu'un du monde du sport qui vous dit ça, quoi. C'est-à-dire que je pense que le baseball, le cricket, le football américain, c'est des sports extrêmement complexes à comprendre et que c'est le rôle des commentateurs, entre autres, de les rendre intelligibles pour le plus grand nombre. Et c'est notamment parce que c'est des ancrages culturels très forts et que le sport, il y a des politiques publiques qui sont mises en place depuis qu'on est enfant. La pratique sportive, elle est valorisée dans nos sociétés. L'EPS, on en fait à l'école et ainsi de suite, ce qui fait qu'on a une connaissance des activités physiques et sportives qui est assez grande, mais très honnêtement, je veux dire, moi je le vois encore dans mon entourage de gens qui s'intéressent pas trop au sport, je les mets devant un match de rugby, ils comprennent pas beaucoup plus, quoi. Donc les règles sont complexes, c'est pas toujours évident. Donc oui, League of Legends, c'est pas forcément très facile à appréhender, mais ça l'est pas. C'est pas plus difficile à appréhender qu'un match de cricket, quoi, très honnêtement. Donc c'est pour ça que, et je pense que là c'est quelque chose qu'on partage Tristan, Alexandre et moi, c'est que on cherche à promouvoir, en tout cas à encourager la mise en place de politiques publiques dédiées aux jeux vidéo et à l'e-sport, pour justement que dès le plus jeune âge, il y ait une éducation au numérique, aux jeux vidéo et à l'e-sport qui soit faite, et ce qui permettra aux générations futures, lorsqu'elles seront en train de regarder un événement où il y a du League of Legends, du Rocket League, du Valorant, bah en fait, elles seront pas plus démunies que quelqu'un qui aujourd'hui se retrouve face à un match de rugby ou face à un match de baseball, quoi. Typiquement, l'année dernière, Olympic eSport Series qui se sont tenues à Singapour, il y avait un jeu vidéo de baseball, je mets quiconque au défi de comprendre les règles du jeu vidéo de baseball. C'était pourtant une simulation d'un sport, mais c'est pas facile à comprendre. Et même le vélo, qui paraît hyper simple à comprendre, le format du tournoi qui était proposé finalement à Singapour, très honnêtement, il a rien à voir avec les formats que l'on connaît dans le cyclisme traditionnel, j'ai envie de dire, le Tour de France, le Giro ou la Vuelta, ça avait rien à voir. C'était un modèle, un format de tournoi très gamifié, avec qui empruntait à des règles issues du cyclisme sur piste, d'autres du cyclisme sur route, d'autres aux jeux vidéo. Et je pense que beaucoup de gens étaient assez décontenancés par le format du tournoi et des règles qui étaient proposées. et c'est juste, bah, c'est comme tout, il faut s'y acculturer, quoi. Donc je suis pas certain que ça soit un bon argument que de dire au moins les jeux de simulation de sport c'est facile à comprendre. Je crois pas que ce soit beaucoup plus facile à comprendre que n'importe quel autre jeu. C'est juste, ça nécessite un temps d'adaptation, un temps d'acculturation et un bon travail de la part des commentateurs et commentatrices pour rendre ça intelligible au plus grand nombre, quoi, de manière générale.
Ouais, puis il y a quand même pas mal de jeux, des simulations sportives. On parle du football américain, donc un jeu compliqué. Même sans aller jusqu'au football américain et revenant sur un sport un petit peu fagnon en France, le rugby par exemple. Les jeux de rugby comme Rugby 24, enfin tu as sorti Rugby 25, c'est une manette de PS5, il y a 10 boutons, bah, c'est 10 touches différentes en fait. Donc il faut vraiment tout comprendre, puis c'est des enchaînements qui font avancer les joueurs, etc. Donc c'est vraiment, c'est la pratique en soi, elle est assez compliquée, même si derrière, je veux bien que le commun des mortels qui va regarder, qui aura juste lui l'image du jeu en lui-même, il comprendra que le baseball, il faut aller marquer des touchdowns, que le rugby, on va mettre des essais, que le football, on met des buts, etc. Ça c'est simple. Mais justement, pour faire une petite transition, il y a eu la FIFA qui a annoncé récemment, voilà, qu'elle ne suivait plus Electronic Arts, etc. Donc, d'où le changement de nom de jeu entre FIFA et FC 24. Mais il y aurait des pourparlers avec Psyonix pour que Rocket League en fait puisse devenir la prochaine eFIFA Cup. Donc à voir, peut-être que ça pourrait venir d'une certaine avancée de la part de certaines fédérations internationales sportives, bien sûr, bah, de s'ouvrir à des jeux un petit peu plus mainstream, comme on disait tout à l'heure, comme Rocket League. Et c'est vrai que d'avoir une compétition d'une fédération sportive sur un jeu comme Rocket League, ça permettrait peut-être effectivement de toucher une fanbase beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique et plus ouverte en fait sur l'arrivée de l'e-sport traditionnel. Et peut-être que ce jeu Rocket League, qui est ni plus ni moins que du football en fait, hein, enfin même du five, hein, du football en cage, et deviendrait une porte ouverte à d'autres jeux un peu plus traditionnels comme du League of Legends. Alors Counter-Strike, je sais pas, parce qu'il y a aussi la limite d'âge aussi qu'il y a à voir. Le sport, on peut le pratiquer quasiment à tous les âges. Le jeu vidéo, je ne suis pas sûr qu'on ait demain envie de diffuser à un grand public sur une chaîne télé standard un jeu interdit au moins de 18 ou interdit au moins de 16 ou quoi que ce soit. Après, il y a aussi cet aspect peut-être à avoir et à travailler, mais c'est vrai que ça, l'arrivée de Rocket League au sein de la FIFA peut potentiellement permettre à l'e-sport de retrouver encore une reconnaissance spécifique auprès du monde sportif.
Alors moi, ce que j'entends en fait dans tout ça et de tout ce qu'on en dit depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a des vraies responsabilités, mais à l'échelle de la planète, sur les engagements qu'on a pour les générations à venir, en tout cas dans l'inclusion de l'e-sport, mais dans toutes les ramifications de nos institutions, je pense, au-delà que du CIO, et qu'il y a un vrai, comme a dit Nico, il y a vraiment de la culturation à faire de partout sur les territoires pour qu'on puisse en tout cas changer les choses. Après, mélanger FIFA et Rocket League, moi personnellement je ne serais pas le dernier des fans, mais je pense que le sujet n'est pas là. Et si on a au moins des personnes qui s'intéressent à ces choses-là et que la volonté est de faire connaître, développer et démocratiser l'e-sport par ces actions, c'est bien. C'est des actions économiques. Moi, en tout cas, je trouverais que ça n'a aucun intérêt.
Juste pour bien comprendre le move qu'évoque Tristan de Psyonix et Rocket League au sein de la FIFA, il faut revenir à ce que je vous disais au début, à savoir que pour pouvoir participer, ou en tout cas pour qu'un éditeur ait la chance d'avoir son jeu qui soit partie prenante d'un événement olympique dédié à l'e-sport ou au virtual sports, il faut qu'il soit rattaché à une fédération sportive. C'est comme ça qu'on a vu du Fortnite à Singapour, c'est parce que, enfin, une version modifiée de Fortnite, pas sous un format Battle Royale, mais quoi qu'il en soit, c'était Fortnite, c'était par l'intermédiaire de la Fédération Internationale de Tir. Et donc, en fait, le move de Psyonix, il est très malin. Hein. C'est-à-dire que Rocket League, eux, ils étaient en événement de démonstration à Singapour, ils faisaient pas partie des tournois officiels parce qu'ils n'étaient rattachés à aucune fédération. Et donc, tout l'intérêt de Psyonix slash Epic, vu que ça appartient aussi à Epic, de venir se rapprocher de la FIFA, c'est justement pour pouvoir être en tant que discipline officielle aux futurs événements olympiques dédiés à l'e-sport sous l'égide d'une fédération sportive qui appartient au mouvement olympique. C'est un move très smart, hein, de la part de Psyonix. C'est un move aussi assez smart de la part de la FIFA qui s'est, donc comme le disait Tristan, plutôt mis dans un rapport de force, voire un conflit avec Electronic Arts, d'aller se rapprocher d'un autre éditeur de jeu. Donc voilà, enfin en tout cas, c'est ce qui permet de bien saisir finalement comment est né ce rapprochement, quoi. Il y a un réel intérêt pour Psyonic à se rapprocher de la FIFA en tant que fédération sportive, c'est pour pouvoir être présent en tant que tournoi officiel lors des prochains événements olympiques dédiés à l'e-sport.
Ce que je trouve intéressant avec ce move-là aussi, c'est la question d'un tournoi par nation aussi. Est-ce que ce qu'on a assez rarement, enfin ce qu'on n'a pas souvent dans les compétitions e-sport, hein.
Complètement. C'est comme je le disais, les membres du mouvement olympique, hein, donc le CIO sert les intérêts de ses membres, et parmi ses membres, il y a les comités nationaux olympiques. Donc, c'est-à-dire que par nature, les événements olympiques sont des événements par nation. Donc, je pense que la grande majorité des communautés e-sportives sont assez désireuses de voir des tournois par nation, de voir l'équipe de France affronter l'équipe des États-Unis et l'équipe de Corée du Sud sur plein de jeux. Ça enthousiasme beaucoup de fans, quoi. Par contre, c'est pas sans soulever énormément d'interrogations. C'est-à-dire qu'à partir du moment, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le sport traditionnel, lorsque la Fédération internationale de football dit on va participer aux Jeux olympiques pour un tournoi de football, cette fédération internationale, elle est déconcentrée au niveau des États par des fédérations nationales, et c'est ces fédérations nationales qui font les sélections de joueurs qui représenteront ces pays. Or aujourd'hui, comme je le disais, au niveau international, il n'y a pas de fédération internationale d'e-sport qui est reconnue par le mouvement olympique, et il n'y a pas des fédérations nationales d'e-sport dans tous les pays du monde. Et on est sur un niveau de structuration qui est très divers, très différent d'un pays à l'autre. Aujourd'hui, il y a 196 pays dans le monde, 196 États-nations, et il y a 205 comités nationaux olympiques. Il n'y a pas 205 pays dans le monde dans lesquels il y a une fédération d'e-sport reconnue par son ministère des Sports ou son comité national olympique. Donc comment, là ça va être la problématique à laquelle va se confronter le CIO pour son prochain événement, donc les Olympic Esports Games qui se tiendront normalement à partir de 2025. S'il y a un tournoi de Rocket League par nation, c'est qui se charge au niveau national d'effectuer la sélection. Et ça c'est un vrai sujet qui est pas si évident que ça, auquel notamment Tristan est particulièrement confronté de son côté avec la FFJV, mais c'est un vrai sujet sur lequel il y a des vraies disparités d'un pays à l'autre. Il y a des pays qui vont faire le choix de faire une vraie sélection, c'est-à-dire qu'ils vont piocher des joueurs à droite à gauche pour faire une équipe, puis il y a d'autres pays qui sont pas suffisamment structurés, c'est moins évident, qui vont, on va dire, homologuer d'une certaine manière un club déjà existant pour le représenter, mais c'est-à-dire c'est pas une sélection, c'est un club, alors c'est un club qui a été sélectionné, un roster qui a été sélectionné, mais qui est déjà préexistant. C'est comme si on disait, le PSG, c'est vous le PSG qui allez représenter la France aux Jeux Olympiques. C'est des choix assez différents, mais il n'y a pas encore de standardisation, il n'y a pas d'uniformisation sur ces aspects-là. Et donc, ça soulève énormément de questions pour les prochains mois, et puis de manière générale pour les prochaines années.
Tout à fait, sachant qu'en plus, il faut que quand il y a une sélection dans le sport traditionnel comme le football, par exemple, moi j'aime bien prendre l'exemple du football parce que c'est le sport que je connais le plus, hein. J'ai été arbitre de football à haut niveau, à niveau très correct. Donc du coup, j'ai pu voir un petit peu le chapeautage. Nicolas, il connaît le sport un peu comme sa poche. Par contre, si on lui parle de basket, il va nous tenir une conférence de 24 heures. Il n'y a pas de souci. Enfin, j'attire sa spécialité un petit peu. Mais voilà, dans le football, quand il y a une sélection qui est faite terme par Didier Deschamps, par exemple, là comme pour les championnats d'Europe actuels, en plus ça fait tendance, et il va sélectionner des joueurs qui font partie de clubs qui sont reconnus par la FFF ou par la Fédération Internationale, hein, quand on a des joueurs qui viennent du Real Madrid, de Manchester United, etc., donc c'est des joueurs qui viennent de partout. Mais derrière, il y a aussi un accord entre un contrat entre le joueur, la fédération et le club. C'est-à-dire que le club, il peut ne pas laisser partir son joueur. Il n'est pas obligé, il n'y a pas de clause d'obligation ou quoi que ce soit. Et dans l'e-sport, c'est là où on aurait aussi une limite. C'est-à-dire que, d'accord, il n'y a pas de fédération reconnue actuellement, donc admettons que si demain, aux Olympiques e-sport games, c'est la FFF qui s'occupe de la sélection de Rocket League, ce qui serait tout à fait qui pourrait être potentiellement faisable, et est-ce que derrière les clubs qui ont du Rocket League comme Karmine Corp, comme Vitality ou comme d'autres clubs un petit peu partout dans le monde, est-ce que eux autoriseraient leurs joueurs à libérer leurs joueurs pour aller après représenter la France au profit de la FFF pour les Olympiques par exemple. Donc il y a vraiment toute une histoire de contrat en France actuellement on n'en est pas là au niveau de structuration. Ça peut être potentiellement dans les papiers, mais c'est pas prêt de voir le jour. Et du coup, c'est quelque chose pour moi qui peut potentiellement poser problème.
Alors, au-delà de parler de structuration, tu parlais de championnat d'Europe, là on parle de CIO et dans le sport, et je pense que Nico sera d'accord avec moi, on parle de minima, on parle de temps, on parle de performance. là, on parle de sélection pure. Et je pense qu'effectivement, une structuration globale, uniformisée et internationale est nécessaire, en tout cas dans la stratégie du CIO, si on veut qu'on ait des championnats nationaux avec comment dire, une égalité pour les participants de pouvoir rejoindre la compétition olympique de la même façon. Voilà. Et je pense que c'est ça qui va aussi valoriser, en tout cas, tout ce que le CIO défend en termes de valeur. Camaraderie, équité, tous les termes qu'ils utilisent. Et sans ça, c'est vrai que ça risque d'être bancal.
Après, ce que je me disais, bah, je crois que c'est Tristan qui a parlé des clubs. Après, le truc, c'est que souvent dans les équipes e-sport, c'est qu'il y a, par exemple, si une équipe a 3 joueurs, ils ont généralement que 3 joueurs dans leur roster. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra que, pour pouvoir libérer un joueur, il en faudra un quatrième pour que, on va dire, que le club puisse fonctionner normalement, on va dire.
C'était la seconde partie de l'interview, maintenant place à la seconde pause musicale, le morceau Porcherie du groupe Berruriers Noirs.
Monsieur, mesdames et messieurs, ce qui est en train de se passer constituera demain les fondations du grand mouvement national. Le monde est une vraie porcherie, les hommes se comportent comme des porcs. De l'élevage en batterie à des milliers de tonnes de morts. Nous sommes malheurs et fanatiques, folie, oppression scientifique. Nous sommes dans un état de jungle et partout c'est la loi du flingue. Prostitution organisée, putréfaction germénosée. Le tiers-monde crève, les porcs s'enfuient, la tension monte, les chiens griffent. Massacrés dans les abattoirs, brûlés dans les laboratoires, marqués dans des cités dortoirs, prisonniers derrière ton parloir. Hiroshima, les suspects cuisent dans les fours du gouvernement. En Europe, les remèdes croupissent dans les bunkers de l'isolement. Un homme qui éclate en morceaux, dynamité par des courants. Des sages conduits à la démence, Beethoven devient ultra-violent. D'un côté système monétaire, de l'autre l'ombre militaire. Tout finit en règlement de compte à coups de schlag, le sang inonde.
De retour sur Studio Zef, nous sommes toujours dans le quart d'heure e-sport dédié à l'e-sport aux Jeux Olympiques. Tout à l'heure, avec Nicolas, Tristan et Alexandre, on a parlé du move entre Psyonix et la FIFA sur le jeu Rocket League. Je vais poursuivre cette émission avec la dernière partie de cette première émission sur l'e-sport aux Jeux Olympiques.
Ça dépend du calendrier, en fait. Il y a énormément d'obstacles, en tout cas de... Oui, des obstacles qui sont plus ou moins surmontables, mais si sur la période où se tiendront ces Olympic Esports Games, l'éditeur du jeu a fait le choix de ne pas du tout mettre de compétition, pour le club, a priori, ça ne devrait pas poser de problème de libérer ses joueurs à ce moment-là, puisque finalement les joueurs sont dans une période de, j'ai envie de dire, mi-saison, en tout cas une période sans compétition. Donc à ce moment-là, ça peut fonctionner. Si par contre, c'est une période où il y a des compétitions, à ce moment-là, ça peut être plus délicat, effectivement, et là, le club peut être amené à ne pas vouloir libérer ses joueurs, quoi. Mais ce que soulevait Tristan est hyper intéressant parce que on parle de fédération internationale de sport et de fédération nationale de sport qui serait susceptible de sélectionner des joueurs d'e-sport alors même qu'elles n'ont pas forcément ni l'expertise ni la compétence pour le faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans quelle mesure, je me questionne, j'en ai aucune idée, hein, mais dans quelle mesure est-ce qu'au sein de la 3F, de la Fédération Française de Foot, ils sont à même de savoir qui sont les meilleurs joueurs de Rocket League actuellement? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont des experts. Je pense pas, très honnêtement. Mais je pense qu'ils feront appel, à juste titre, comme ils le font habituellement, ils feront appel à des acteurs du secteur qui sont experts. Donc ils feront appel à Vitality, à Carmine, et ainsi de suite, pour leur dire, ok, voilà, on va nommer un sélectionneur. Et puis c'est ce sélectionneur-là qui va constituer sa meilleure équipe de Français de Rocket League en allant piocher chez BDS, chez Gentlemates, chez Vitality ou chez Carmine, quoi. Mais bon, encore faut-il que ces clubs, d'une certaine manière, acceptent de collaborer avec la 3F sur un jeu dont ils sont experts et pour lequel la 3F n'est pas forcément experte, quoi. C'est plus complexe que ce qui n'y paraît, quoi. Dans d'autres pays, ça se passerait pas par la 3F, par exemple, par leur fédération nationale de foot. Dans d'autres pays, je pense que la fédération nationale de foot déléguerait directement à la fédération autoproclamée d'e-sport et ce serait la fédération autoproclamée d'e-sport qui se chargerait de créer la sélection, quoi. Donc, hyper complexe. Et pour revenir à ce que disait Alexandre sur les minima que l'on peut retrouver dans le sport pour pouvoir se qualifier au JO. Là encore, ça nécessite de la part des éditeurs de jeux, cette fois-ci, qui sont les régulateurs de leur compétition e-sportive, de définir finalement quels sont les minima pour pouvoir, sur des jeux individuels, disons StarCraft par exemple, ou sur Street Fighter, ou je sais pas, d'autres jeux plus individuels, ce serait à l'éditeur, lui, de définir, ok, pour pouvoir se qualifier à ces Jeux Olympiques de l'e-sport, à ces Olympic eSports Games, il faut, au cours des 12 mois précédents, sur les 3 événements majeurs, avoir fait au moins top 4 sur l'un de ces 3 événements et ainsi de suite. Mais ça nécessite une vraie réflexion de la part de l'éditeur de jeu à ce niveau-là aussi.
C'est un vrai cahier des charges.
Exactement. Ce qui n'est pas très grave en tant que tel, parce que c'est normal que ça prenne du temps. On a tendance dans l'e-sport à vouloir que tout aille vite, mais des fois il faut savoir accepter que ça prend du temps pour bien faire les choses. L'important c'est déjà d'avoir mis un pied d'une certaine manière, à la fois pour le monde de l'e-sport dans le mouvement olympique et le mouvement olympique dans le monde de l'e-sport. Ça je trouve, à titre personnel, on peut ne pas être d'accord, mais moi je trouve que ce rapprochement, il est plutôt intéressant et plutôt bénéfique pour les deux parties. Contrairement à ce qui peut être dit, beaucoup de gens pensent que ce n'est bénéfique qu'au mouvement olympique, moi je pense que c'est bénéfique à l'e-sport aussi. Cependant, c'est évident qu'au début ça va tâtonner, va y avoir des accrochages, va y avoir des choses qui vont être décevantes, comme ça a pu être le cas à Singapour sur le choix des jeux, sur les audiences ou des choses comme ça. Va y avoir des choses qui ne seront pas optimisées, qui fonctionneront pas forcément très très bien, mais ce qui va permettre d'être, on va dire, des crash tests, des expérimentations qui vont, si tout se passe bien, permettre d'améliorer au fur et à mesure des éditions les formats, les contenus, les sélections des jeux, des compétiteurs et des compétitrices, et ainsi de suite, quoi. Mais c'est évident que ça va démarrer et que ça sera pas parfait. Il faut l'accepter.
Bah, ça me faisait penser aux jeux asiatiques. Depuis quelques années, on a des tournois de Dota 2 et aussi du League of Legends, et ça marche plutôt bien.
Bah après, faut comprendre que c'est que l'Asie, en fait. Ouais. En Asie, il est quasi... Alors, pour être un peu en contact avec les fédérations, soit dit, alors certaines qui sont pour le temps vraies, et puis d'autres un peu autoproclamées en Asie, l'e-sport a un autre niveau que celui de l'Europe. C'est-à-dire qu'en Asie, il y a la moitié des pays qui ont vraiment une fédération reconnue, athée, qui siègent dans leur propre comité olympique. Il y a vraiment toute une culture qui est complètement différente. Donc c'est pour ça qu'on arrive à faire des jeux asiatiques spécialisés dans l'e-sport sur des jeux comme Counter-Strike, comme Dota 2, comme pourquoi pas League of Legends demain, même si je doute que Riot laisse vraiment tout de suite à l'instant T la gestion de ça à une entité externe. Mais voilà, donc il y a ce côté-là qui fait que c'est vraiment la culture asiatique qui fait qu'on arrive à avoir des choses en Asie. Pour le coup, par exemple en Afrique, ça va être un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que ça va être aussi très à tâtons, et s'il n'y a pas une entité internationale qui vient organiser quelque chose en Afrique, il ne se fera jamais rien. En Europe, on est toujours un petit peu, on regarde ce qui se fait ailleurs, bon bah ça va bien, donc on essaye d'aller dans ce sens-là, c'est encore très dur, parce que on a des cultures très différentes, on a comme cette culture du sport traditionnel en Europe, hein, c'est très compliqué d'allier sport et e-sport, et de dire, finalement c'est un peu la même chose ou quoi, il y a toujours des personnes qui vont venir en dire le contraire. Et aux États-Unis, en Amérique, j'ai pas du tout de connaissances sur comment ça peut se faire, mais c'est vraiment le côté asiatique qui est complètement différent. Alors, est-ce qu'on prendrait le modèle asiatique et on dirait, bon, bah, ça fonctionne en Asie, pourquoi pas faire ça ici? Pourquoi pas, mais chaque culture étant différente, je suis pas sûr qu'on arrive à faire quelque chose en prenant vraiment ce modèle asiatique et en le calquant sur ce qui se fait en Europe.
Je pense qu'il faudra faire des ajustements.
Ouais, en fait, il faut bien comprendre qu'est-ce qui explique qu'en Asie, c'est ce modèle-là, le modèle sportif qui prédomine. C'est qu'en fait, l'Asie, elle a été surtout, alors pas toute l'Asie, hein, bien évidemment, mais on va parler surtout de la Corée du Sud et de la Chine en particulier. C'est deux pays qui ont été pionniers dans la reconnaissance de l'e-sport par leurs organes traditionnels de gouvernance du sport, et ce, dès le début des années 2000. C'est-à-dire au début des années 2000, l'e-sport et les fédérations qui se sont créées autour de l'e-sport dans ces deux pays-là ont été reconnues très rapidement par leur ministère des sports respectifs. En fait, ça a été possible parce que au début des années 2000, les éditeurs de jeux étaient assez peu à la fois regardants et au fait de ce qui se passait sur leur propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, il y avait même des éditeurs de jeux qui savaient même pas qu'il y avait des compétitions sur leurs jeux. Ils étaient même pas vraiment au courant. Sauf qu'au tournant des années 2010, et notamment avec l'émergence des plateformes de streaming et surtout on va dire la réimplication de certains éditeurs de jeux dans la régulation de leur propriété intellectuelle et notamment Riot Games, en fait, ça a fait que la plupart des éditeurs de jeux, eux, ne souhaitent pas que l'e-sport soit reconnu comme un sport, parce que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si l'e-sport est reconnu comme un sport, les éditeurs de jeux perdent leur propriété intellectuelle sur leur compétition. Donc, depuis le début des années 2010, il y a un vrai, on va dire, une levée de bouclier de la part des éditeurs de jeux lorsqu'un pays cherche à faire reconnaître l'e-sport comme un sport. Sauf qu'en Asie, ça avait déjà été fait avant qu'il y ait cette levée de bouclier. Donc, c'est un modèle qui s'est déployé en Asie, au grand dam, j'ai envie de dire, des éditeurs de jeux. Mais ce qui permet à l'Asie d'intégrer l'e-sport au sein du comité asiatique, donc du Conseil asiatique olympique, donc ce qu'on appelle l'OCA, et donc d'intégrer l'e-sport dans les jeux asiatiques qui sont organisés par l'OCA autour d'une fédération e-sportive asiatique qui s'appelle l'AESF, pour Asian Electronic Sports Federation, qui elle est totalement légitime. Mais très honnêtement, ça fait pas énormément plaisir aux éditeurs de jeux. Aujourd'hui, si en Europe, il y a des pays qui cherchent à faire reconnaître l'e-sport comme un sport, c'est des rapports de force qui se mettent en place entre les éditeurs et les fédérations qui cherchent à se rapprocher de leur gouvernement et de leurs organes traditionnels de gouvernance du sport. Et c'est pour ça qu'en Europe, on a assez peu de pays finalement qui reconnaissent l'e-sport comme un sport. C'est assez marginal. Alors qu'en Asie, c'est beaucoup plus répandu. Donc c'est pour ça que l'e-sport a une place assez importante au sein des jeux asiatiques, alors que dans les jeux européens, par exemple les jeux européens olympiques, qu'on connaît très peu en Europe, pourtant ils existent aussi, bah, y a pas l'e-sport, où c'est à peine en train d'être discuté sous un format un petit peu d'événements de démonstration et ainsi de suite, mais il y a un fort lobbying qui est fait par certains acteurs de l'e-sport européen, mais on n'y est pas du tout au même niveau qu'en Asie. Donc il faut bien comprendre ce que disait très justement Tristan, c'est que c'est des vraies différences culturelles très massives, très importantes, qui expliquent que dans certaines régions du monde, l'e-sport est plutôt reconnu comme un sport, et dans d'autres pays du monde qui ont eu une reconnaissance institutionnelle de l'e-sport beaucoup plus tardive, bah en fait ils se sont heurtés à cette levée de bouclier que j'évoquais des éditeurs, là où en Asie ils ont été pionniers sur ces aspects-là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus en avance sur l'e-sport de manière générale, mais en termes de reconnaissance institutionnelle, ils ont été pionniers. Après, sur le reste, il y a plein d'autres choses. Il y a des pays en Europe qui sont bien plus en avance que l'Asie sur certains aspects, que ce soit dans des pays d'Europe du Nord en termes de soutien des pouvoirs publics, d'éducation à l'e-sport ou des choses comme ça, ou d'investissement privé plutôt en Amérique du Nord. Donc, chaque zone géographique a sa particularité. S'il y a bien une particularité en Asie, c'est le modèle de structuration sportif de l'e-sport. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très distinctif par rapport aux autres régions du monde.
On pourrait même dire qu'on le voit en tout cas sur League of Legends, pour ne pas les citer encore une fois, c'est souvent des équipes chinoises ou coréennes qui sont dans le dernier carré des Worlds, quoi. Donc ce qui signifie bien qu'il y a une vraie culture de cette compétition, de l'excellence qu'on pourrait associer au sport aujourd'hui, mais dans l'e-sport en Asie. Et Nicolas avait rappelé, Tristan l'a dit aussi, je pense que ça passera par des consensus institutionnels et de développement à l'international, et qui commencerait, comme la question qu'avait pu poser Madame la ministre des Sports, qui était de dire comment on fait des Mbappé de l'e-sport. Bah, je lui ai dit que la réponse était dans la question, comment vous faites des Mbappé dans le sport, voilà.
Et pour faire des Mbappé dans l'e-sport, il faudrait des centres de formation.
Il faudrait tout simplement des tiers-lieux de clubs d'accueil sur nos territoires, en zone rurale, mais qui ramifieraient tout le territoire, dans le sens où, pour moi, dans le sport, on a des clubs dans chacune de nos communes, ou presque, si ce n'est pas des toutes petites communes qui sont en communauté d'agglo. Et ensuite, on a des ramifications de collectifs, communautés d'agglomération, de départements, de régions, etc., et qui peuvent remonter jusqu'aux nationaux. Bien évidemment, le tout structuré ou encadré par un système de gouvernance, sans le définir.
La question de la formation, elle est liée aussi à des politiques publiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour former des athlètes de haut niveau, c'est qu'il y a des politiques publiques qui sont mises en place depuis des décennies pour former ces athlètes, que ce soit déjà pour former les formateurs, c'est-à-dire avec des diplômes d'encadrant, des diplômes de coach, des diplômes d'entraîneur, et puis ensuite, la mise en place de ce qu'on appelle dans le monde du sport le double projet, c'est-à-dire que les talents sportifs, ceux qui excellent dans le sport au plus jeune âge, ont des aménagements du temps scolaire pour pouvoir à la fois mener de front leur formation, leur éducation, mais aussi leur performance sportive. Et tout ça, c'est lié à des politiques publiques qui sont rattachées au ministère des Sports. Or, aujourd'hui, l'e-sport, en France en l'occurrence, vu qu'on va parler du cas français, n'est pas rattaché à un ministère de tutelle. Donc, de fait, il n'y a pas de politique publique avec des subventions, des fonds qui sont directement dédiés à cette question de la formation et la mise en place de parcours d'excellence dans l'e-sport qui permettent d'avoir un double projet pour pouvoir suivre une éducation tout en performant dans l'e-sport. Et donc, de fait, aujourd'hui, on se retrouve avec... La France, c'est une belle nation d'e-sport en termes de palmarès. Je veux dire, sur tous les jeux, on a des champions et des championnes. C'est vraiment assez exceptionnel, au regard notamment du peu d'investissement financier de la part des pouvoirs publics sur l'e-sport. C'est-à-dire, imaginez si en plus, on mettait les moyens pour encadrer ça, ça serait vraiment fantastique. Alors que là, actuellement, sans même ce soutien-là, on arrive déjà à avoir des champions et des championnes sur tous les jeux. Mais, encore une fois, ça nécessite la mise en place de politiques publiques. Alors, ça fait partie des ambitions de la stratégie nationale e-sport 2020-2025. Il y a tout un axe sur la formation des joueurs de haut niveau, mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien qui a vraiment été mis en place pour ça. Et cette question des centres de formation, elle se fera pas de... Ça ne pourra pas faire émerger des talents si c'est des initiatives, j'ai envie de dire, qui sont éparses, éparpillées à droite à gauche. Ça, il doit y avoir une vraie politique nationale, structurée, d'accompagnement des joueurs de très haut niveau dès leur plus jeune âge, un système de détection, un système d'accompagnement. Je crois fondamentalement, peut-être on n'est pas d'accord avec moi, mais que dans tous les cas, la formation des joueurs, elle passe par les clubs. Donc c'est pas dans des écoles que les joueurs ils vont se former, c'est au sein des clubs. Donc il faut des moyens pour les clubs, il faut des moyens pour qu'ils détectent les joueurs, il faut des moyens pour qu'ils fassent monter en compétence leurs coachs, pour que ces coachs ils puissent mieux former ces joueurs, et ainsi de suite. Donc c'est là où il y a des, à mon sens, des vrais besoins en termes de politique publique de formation.
Quand je voulais dire centre de formation, c'était dans des clubs en fait, comme on peut voir dans le football notamment. Par exemple, le PSG qui a son centre de formation pour détecter des joueurs, etc.
Bah, là, de toute façon, et puis je pense que Alessandre ne sera pas trop loin de mon avis, il faut repartir du modèle en fait, des clubs et associations qui ont vu le jour il y a 10-15 ans. En e-sport, il n'y a pas besoin d'être en présentiel en fait, pour faire sa pratique. Donc un club ou une association peut très bien être basé à Tourcoing et puis avoir ses joueurs à Marseille, Bayonne, Strasbourg, etc. Et donc ça, pour pouvoir les faire venir et les encadrer, les avoir en pratique présentielle, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement coûteux et c'est surtout pas faisable. Là, maintenant, à l'instant T, il y a de plus en plus de clubs et d'associations qui existent depuis quelques années ou qui on pourrait faire monter un club de par leur expérience et leur palmarès, si on veut aller jusque-là, qui essaient justement de retrouver une stratégie territoriale, c'est-à-dire de se rapprocher de la collectivité de base, de créer des petits systèmes d'académie un petit peu. Donc nous, c'est ce qu'on fait chez Aristar, par exemple, ou du moins c'est ce qu'on va débuter bientôt, qui est de pouvoir faire justement venir le vivier des jeunes locaux, donc de la commune, des communes avoisinantes, pouvoir les tester un petit peu, les encadrer, leur montrer les bonnes pratiques du jeu vidéo, de l'e-sport, etc. Et puis, si on arrive à avoir détecté quelques talents intéressants ou du moins qui n'auraient à terme plus besoin de nous pour les accompagner, parce que c'est ça un club de sport. Quand on a un petit joueur de foot il va commencer dans un club de district, au bout d'un moment, le joueur, le district ne sera plus son niveau, quoi. Il aura peut-être besoin d'évoluer en régional ou d'évoluer à niveau national. Et donc, ça sera au club, en fait, d'aller proposer ce joueur-là à des clubs beaucoup plus gros, avec beaucoup plus d'impact, et, etc. Et puis, bah, de dire, bon, bah, voilà, nous, on a ce joueur, il est très bon sur Rocket League, par exemple. Admettons que le petit Zen ait été commencé dans un petit club, bah, au bout d'un moment, on s'aperçoit que bah, son niveau dépasse un petit peu tout ce qu'on peut faire, on peut plus rien lui apprendre. Et ben, bah, on va le proposer à Carmine Corp ou à Vitality, et peut-être qu'eux auront les moyens de pouvoir le faire évoluer. Et c'est ce système-là qu'il faut qu'on arrive à retrouver au niveau e-sport en France, c'est de repartir sur la base, que chaque association, chaque club puisse vraiment évoluer dans son niveau local et puis après puisse grandir de, au fur et à mesure de par une base de joueurs saines et locales.
Parler de la Carmine Corp, puis peut-être voir même plus tard intégrer des clubs étrangers aussi.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais après, je pense qu'Alexandre a aussi peut-être une petite précision sur ce modèle.
Non, mais après, ce que disait Nico, c'est qu'effectivement, enfin même toi, Tristan, c'est que ça passait forcément par le terrain, le local. Ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est là où je pense que l'hybridation du sport et de l'e-sport, au moins dans le propos, doit s'arrêter net, c'est que bah, les agents des joueurs, qui sont souvent les parents des enfants carriéristes, entre guillemets, ont des philosophies qui sont liées à l'historique et l'ancienneté du monde du sport ou de la façon dont on crée des sportifs d'excellence, entre guillemets, en tout cas pour le foot, parce que je connais très très bien ce milieu. Donc moi, je ne suis pas forcément fan de ça, dans le sens où aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait suffisamment de parents qui comprennent, si on encadrait ça dans la parentalité numérique, qui comprennent réellement ce que c'est. Alors oui, il y a la nouvelle génération, hein, Nico, moi, peut-être toi, Tristan, on fait partie de ces parents qui comprenons ça parce qu'on a évolué avec, on est de la génération qui avons connu l'évolution de tous ces sports électroniques. Mais pour moi, on manque encore de maturité, on est encore un peu fébrile et il va falloir structurer et encadrer. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a des passes décisives, entre guillemets, comme tu dis, si on voulait garder la thématique sportive entre bah, des clubs en local et des choses qui seraient plus grandes. Aujourd'hui, pour moi, je pense que c'est la responsabilité des éditeurs et pas des clubs de devoir assumer ces choses-là en créant peut-être des passerelles via des compétitions de différents niveaux sur différents territoires. Voilà mon avis.
C'est la fin du quart d'heure e-sport sur la première partie d'émission sur l'e-sport aux Jeux Olympiques sur Studio Zef. Merci de m'avoir suivi tout au long de l'émission. D'ailleurs, cette émission et les anciennes émissions du quart d'heure e-sport sont disponibles sur studiozef.fr. Rendez-vous le 28 juillet prochain pour la seconde partie et fin de l'émission sur l'e-sport aux Jeux Olympiques sur Studio Zef. En attendant, retrouvez le quart d'heure e-sport sur Twitter, Instagram et aussi sur Discord. A très bientôt sur Studio Zef. Le quart d'heure e-sport, une émission sur l'actualité et l'agenda des tournois e-sport amateurs, semi-professionnels et professionnels, locaux, nationaux ou internationaux. Retrouvez-nous tous les dimanches à 13h sur le 91.1 FM pour Blois et ses environs, et aussi sur studiozef.fr. En attendant, retrouvez le quart d'heure e-sport sur Twitter, sur Instagram et aussi sur Discord.